dispute. Cinéma. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, alors beaucoup de monde, hein, parce que c'est la fête du fin de Grain à Moudre. Et puis tout à l'heure, ce sera aussi Didier Varro sur une autre antenne qui saluera ses auditeurs. Mais on est au Bel Air, en public, en direct, le bar de la Maison de la Radio, pour la dernière dispute de la saison. Et avec moi, Lucille Comeau, Muriel Jodé, Corinne Rondeau, pour parler ensemble de Trois Femmes, de Robert Altman, sorti en DVD Blu-ray chez Wildsign, Rojo, de Benjamin Neustadt, qui sortira mercredi prochain. Nous parlerons également de Yves, de Benoît Forgeard, qui lui est sorti dans les salles mercredi dernier. Enfin, un coup de cœur de Muriel Jodé pour Toy Story 4. Nous ouvrons cette dispute avec une sortie en DVD et Blu-ray, celle de Trois Femmes de Robert Altman, un film de 1977 édité chez Wildsign. Si ce film ressemble autant à un cauchemar, c'est sans doute parce qu'il est né littéralement d'un rêve, comme l'a révélé le cinéaste lors du Festival de Cannes en 1977, où il figurait en compétition officielle. Dans son rêve, Robert Altman avait vu Sissi Spacek et Shelley Duvall, qui étaient alors des jeunes débutantes. La première incarne Pinky, apparente jeune ingénue, qui se fait embaucher dans un sanatorium du désert californien. Elle va y rencontrer la seconde, qui joue Millie, victime très consentante des diktats de la féminité de l'époque. La troisième femme semble peut-être la plus énigmatique, Willie, sur le point d'accoucher, qui vit dans un village de Far West en carton-pâte et qui peint des fresques dans des piscines. Avant de développer et d'entendre la bande-annonce, une première impression sur ce film, Corinne Rondeau.
Un frisson inexplicable.
Muriel Jodé.
Une inquiétante maison de poupée.
Et enfin Lucille Comeau.
Je pense que c'est un grand film qui échappe à ce qui pourrait être daté dedans.
In a town at the edge of nowhere.
I love irises.
Millie Lamoureux.
I love flowers.
Had a dream.
Candlelight.
Until Pinky Rose arrived.
It is Pinky, isn't it?
And a different dream began.
Pinky!
Robert Altman's Three Women will make you re-examine everyone you've ever wanted to be. Rated PG.
Voilà pour la très courte bande-annonce des Trois Femmes de Robert Altman. Corinne Rondeau, pour commencer sur ce film.
Alors, ça fait partie des films assez incroyables, un peu à la Mulholland Drive. C'est-à-dire un film dont le scénario... Je veux dire, le film traverse le scénario sans produire, en fait, d'explications tout le temps. Aucunement, aucun arrêt. Le film commence avec une scène assez terrible, c'est-à-dire en Californie, dans un centre de gériatrie, où on retrouve Shelley Duvall qui s'occupe de gens à pouvoir les faire remarcher, on va dire. Donc c'est quand même une vision des États-Unis assez épouvantable, dans un rythme très très lent. Le film a un montage lent, on va dire. Et en même temps, il est tout le temps pris dans des suspensions, car commencer comme ça, c'est rien, mais il y a une musique qui maintient en permanence la lenteur du montage, à savoir que c'est fait pour que, justement, on n'anticipe pas ce qui va se passer. Comme on a l'habitude de le faire au cinéma, quand on est face à un film d'action, on a toujours une tendance à vouloir chercher les causes et les effets, qu'est-ce qu'on peut anticiper d'un point de vue imaginaire. Donc, c'est vraiment un film qui est à la fois tendu et dans une lenteur de cette tension. Donc, voilà, on est en Californie avec une vision américaine pas du tout, je dirais, enthousiasmante, et va rentrer assez rapidement dans le jeu Sissi Spacek. Qui m'effraie depuis toujours. Et donc cette histoire
de Carrie, ou de Carrie, évidemment, de Brian de Palma, même époque.
Ce duo de jeunes femmes va créer une sorte d'histoire étonnante, on va dire, qui est un jeu d'identité, puisqu'on pourrait dire que la schizophrénie couvre un petit peu le film. Mais si on dit schizophrénie, on est déjà dans l'interprétation. Or, il y a quelque chose de la question du cinéma qui est aussi en jeu, comme Mulholland Drive, que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la question du rôle des acteurs. Quand un acteur, c'est quelqu'un qui change de rôle. Et à l'intérieur de ce film, il y a aussi des changements d'identité qui sont aussi des changements de rôle.
Muriel Jodé, pour poursuivre.
Alors, peut-être préciser que ce film comment dire, tranche avec ce qu'on identifie comme étant des films de Robert Altman, qu'on connaît surtout pour faire des films chorales avec énormément de personnages et qui suppose toujours que les films soient très écrits, très scénarisés et qui s'acheminent vers une fin aussi elle-même très écrite. Moi, ce que je préfère chez Altman, c'est justement quand il dévie un peu de cette trajectoire de film choral. Je pense à The Long Goodbye, qui est un de mes films préférés. Je pense aussi à John McCabe, son western, où là, d'un seul coup, quelque chose... Altman rediscute quelque chose de sa mise en scène, de sa manière de fonctionner, d'écrire des scénarios aussi, puisqu'il explique dans le très beau coffret qu'édite Carlotta, c'est ça ?
Wildside.
Wildside, oula, pardon, ça commence.
Bon, ils sont quelques-uns à être très bons, donc oui, Wildside voilà, est très bien, bons, Carlotta est très bien, Blackout est très bien. Allez,
c'est ça, et donc on apprend que Altman écrivait les scènes la veille avant de les tourner, et ça aussi, ça diffère beaucoup de films comme Nashville ou Shortcuts, et on sent que ça imprègne totalement le film d'une atmosphère très onirique. Alors, il ne faut pas se fier à la couverture du DVD, qui est très acidulée, alors que le film, lui, est très pastel, très fifi, j'ai envie de dire, très girly, je me permets un anglicisme pour cette dernière.
Pour une fois.
Un peu au nom, enfin, ça correspond un peu au nom qu'a Sissy Spacek dans le film Pinky Rose. Le film est très Pinky Rose, sauf que ce côté très maison de poupée va être de plus en plus infecté par une bizarrerie venue aussi des années 70, venue aussi de la modernité européenne. Alors pour moi, c'est un peu le bémol que j'ai eu en voyant le film, un peu comme Woody Allen qui copie Bergman quand il fait September, c'est que j'ai aussi l'impression qu'il y a un peu de maniérisme dans le film, surtout dans la deuxième partie, puisque le film est un peu coupé en deux. Ça aussi, c'est très années 70, hein, le récit qui en crise. Et au bout d'un moment, dans la deuxième partie, il me semble que le côté Antonioni-Bergman est un peu trop emprunté et me gêne un tout petit peu. Voilà, c'était juste pour essayer de trouver un bémol au film que je trouve très beau et très étonnant dans la carrière d'Altman.
Non, mais ce bémol, je ne suis pas du tout d'accord.
Je sais bien, mais j'ai fait exprès.
Ah, vous ne le savez pas avant que je le dise. Lucille Comeau, d'abord.
Oui, moi j'ai vu le film avec la référence à Lynch qui est dite plusieurs fois dans le livret, et en l'occurrence je vois pas vraiment le rapport. Je vois en effet cette espèce de matière un peu psycho-onirique qui passe par une forme de brouillage des pistes au départ, de brouillage des identités, et encore plus féminin, on y pense, mais c'est drôle, moi j'ai été assez rattrapée, et c'est je crois ce qui m'a plu, par dans le fond je crois une structure extrêmement rigide. Et j'ai tendance à croire que cette histoire de rêve et ce que vous décriviez, Muriel, d'écriture au jour le jour, de scène au jour le jour, est assez construit. Parce que, en fait, c'est un film assez classique dans sa structure. Moi, j'ai pas du tout pensé à Bergman ni à Antonioni. J'ai beaucoup pensé à Hitchcock dans la manière de fétichiser d'abord les actrices, les femmes, d'utiliser des codes de couleurs, des coiffures, de regarder des détails pour construire la question du brouillage des identités. Et en fait, ce brouillage, finalement, si on l'examine un peu de près, il se réduit assez rapidement à une figure qui est la figure du dédoublement. Alors certes, le troisième personnage introduit une forme de dialectique qui explose vraiment à la fin, mais le double est permanent. Il y a deux scènes de potentielle noyade en piscine, il y a cette figure gémellaire, au départ, il y a deux personnages de jumelles absolument effrayants qui travaillent dans le même centre de gériatrie que les deux personnages principaux. Et cette figure-là finit par vraiment donner une structure qui, même si en effet le scénario a quelque chose d'assez lâche, en effet il est séparé en deux parties assez distinctes, finit par structurer un film que je trouve assez classique. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup vieilli, ce film, par rapport à d'autres films des années 70. C'est parce que dans le fond, on y retrouve des motifs et surtout des repères cinématographiques qui sont de l'ordre, pour moi, du classicisme, aussi parce que c'est un film qui regarde le cinéma, et que ne serait-ce que ça apporte des éléments de structure et de métadiscours qui laissent penser que, en effet, c'est un peu un mythe, cette histoire de rêve. Ça réfléchit beaucoup, ça se pense beaucoup.
Oui, ça se pense beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, ce qui me semble peut-être le plus daté, c'est pour le coup la partition musicale atonale qui renvoie quand même à tout un... Non, mais ça n'empêche pas qu'elle soit magnifique. Mais ça ancre le film dans une temporalité qui est celle, effectivement, des années 70. Et là, qui renvoie quand même aussi beaucoup vers le cinéma européen, mais plus Chabrol. Et je le cite exprès parce qu'on va en reparler pour Rojo dans quelques minutes. Claude Chabrol, dont l'ombre plane un petit peu au-dessus de cette dispute, me semble-t-il, ce soir. Corinne Rondeau ne voit pas du tout à quoi peux faire allusion, et vous non plus. Eh ben, je développerai tout à l'heure. Non, mais si, Claude Chabrol, sur l'étrangeté, sur l'incompréhension entre les personnages, sur les agendas cachés, enfin, il y a quelque chose de très... Chabrolien, davantage dans Rojo, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a quand même ces trois femmes sont trois détresses absolues, sont quand même des figures de femmes extrêmement mal dans leur vie, dans leur époque, dans leur société, avec cette jeune fille surgie d'on ne sait où, parce que son passé reste absolument mystérieux. Ce qui est très lynchien aussi, mais par anticipation, comme dirait Pierre Bayard, c'est que c'est le personnage d'un couple de personnes âgées qui va arriver tout d'un coup dans le film d'une façon tellement étrange, et alors là, inexplicable, inexpliquée, ce que disait Corinne Rondeau, il s'agit pas de sortir du film avec des explications, mais peut-être à sortir du film avec encore plus de mystère qu'en y entrant, et à cet égard-là, la toute fin du film est quand même une chose absolument merveilleuse, faramineuse. Vous êtes d'accord, Corinne Rondeau ?
Oui, non, mais je suis d'accord, parce que c'est vraiment un film qui est très lynchien. Vous ne le voyez pas, mais sur la question. Non,
ah
mais
oui,
quand vous parliez, par exemple, du cinéma, le Mulholland, c'est un film sur le cinéma, l'intérieur du cinéma. Bon, lui, il a la boîte, lui, il a une piscine. Enfin, voilà, il y a effectivement ces personnages qui arrivent, le scénario, il n'y a pas d'explication, et c'est toute une mise en abîme de l'acteur et du jeu de rôle. D'ailleurs, le personnage masculin, Edgar, qui est le mari de cette femme, les deux autres vont retrouver à la fin vraiment enceinte.
C'est
un doubleur, un cascadeur. Ah ouais. Donc, il y a vraiment des motifs qu'on retrouve dans une Amérique. Elles sont toutes les deux texanes. C'est-à-dire, elles incarnent l'atavisme américain, les armes à feu, la frontière, tout le regard de la conquête de l'Ouest. Elles se retrouvent en Californie. Toi aussi, moi aussi. Il y a ce regard qui se fait comme demi-dinette et qui finalement, il y a une inquiétude permanente, parce qu'en fait, ces femmes, vous disiez, elles sont mal dans leur peau, elles sont surtout, ce sont des femmes qui sont invisibles à leur propre proximité, puisqu'en fait, Shelley Duvall vit dans une sorte de d'immeuble collectif avec une piscine.
C'est Melrose Place, mais c'est pas la même version.
Voilà, c'est ou Palm Springs, mais pour les jeunes, enfin. Ouais. Et chaque fois qu'elle dit bonjour ou partout, même au boulot,
c'est terrible.
Rien ne se dit.
Il y a de longues scènes où elle parle à ses collègues qui n'écoutent absolument pas. C'est terrible.
Oui, oui. Et donc, je trouve que c'est, je trouve que ce film est un film. Alors là, je prends une position anti-Agnès Varda, hein, très féministe.
Oui, parce qu'elle trouvait que c'était un film épouvantable, Agnès Varda.
Trouvait épouvantable. Et c'est vrai qu'on a là la conjonction, effectivement, bon, c'est dit, mais ça se voit aussi, sur le jeu de trois âges de femmes, finalement. Et donc, c'est à la fois cette manière dont l'inconscient vient peupler, finalement, le désir, le fantasme, je veux être celle-ci. Et en fait, cette torsion qu'il y a au milieu du film, justement, il n'est pas coupé en deux, il se tord sur lui-même, ce qui n'est pas la même chose. Parce qu'en fait, il y a un plongeon de Sissi Spacek qui fait qu'à un moment donné, elle tombe dans le bain de l'inconscient. Et il y a, dans cet inconscient, où elle a resté un moment un peu sans conscience, justement, là, tout va changer, mais c'est aussi laisser du temps pour que les choses se remettent en place dans un autre temps de relation où celle qui avait du pouvoir sur l'autre n'en a plus. Enfin, et il y a tout ce nœud qui se fait entre ces femmes qui est assez beau, moi, je trouve. Parce qu'en fait, et c'est ça, moi, je dirais, qui m'a happé dès le début, c'est qu'en fait, on ne sait jamais comment va finir ce film. Et ça, c'est quand même pas mal. Et c'est une des raisons qui fait que je pense qu'il est assez intemporel.
Lucille Como.
Moi, je crois que je vois pas du tout l'option psychologique d'interprétation de ce film, et je pense que c'est ça qui l'éloigne beaucoup pour moi de l'interprétation d'un film de Lynch, où on ne cesse d'appliquer cette grille sans qu'elle fonctionne vraiment. La grille psychanalytique avec le ça, le surbois. Là, pour moi, je comprends rarement ce que dit Agnès Varda sur les films, mais là, en l'occurrence, je peux comprendre dans la mesure où...
C'est un film misogyne, dit-elle.
Je vois ce qu'elle peut voir des archétypes féminins qui sont en jeu. C'est-à-dire que toutes ces femmes représentent une sorte de figure primitive de la femme. Il y a le motif de la sorcière qui revient à plusieurs reprises. Sissi Spacek et Shelley Duvall se rendent à plusieurs reprises dans une sorte de parc abandonné, qui est une sorte de Disneyland complètement à l'abandon, sur le thème du western, et elles vont dans un bar où il y a une figure de vieille femme, de sorcière, qui est comme un truc un peu de farce et attrape, sur lequel on tire, ou je sais plus exactement, on touche, et elle a un ricanement, et ce ricanement revient parce que Sissi Spacek l'imite à un certain moment, et la figure de sorcière, de la femme sorcière, elle circule en permanence. Ce personnage extrêmement énigmatique joué par Janice Rule, qui est complètement en dehors, jusqu'à prendre un grand rôle dans la scène finale. C'est vraiment la femme de cinéma, pour le coup, qui ressemble à une figure italienne. Elle a toujours un voile, elle a les yeux extrêmement maquillés, les cheveux très bruns. Toutes ces femmes sont des sorcières. Et ça déjoue totalement la question psychologique de qui fait quoi. Et même la détresse dont vous parlez, je la vois pas du tout.
C'est moi qui parlais de détresse.
Oui, c'est vous qui parlez
de
détresse.
Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on projette chacun des choses très différentes.
Pour moi, il n'y a aucune détresse parce que ce sont des personnages qui n'existent pas. De fait, Shelley Duvall, quand elle parle aux autres et que personne ne lui répond, c'est parce que tout simplement, elle n'existe pas. Elle est un type dans une réalité donnée à laquelle elle ne s'adapte absolument jamais.
Mais c'est quand même les femmes qui ont des armes à feu, et c'est quand même elles qui organisent la fin du film, c'est les femmes qui organisent la société. Là, moi, quand j'ai vu ce film aujourd'hui, je me suis dit, mais c'est un film ultra contemporain, ultra féministe, et les sorcières, je peux vous dire que, je veux dire, entre 22 ans et 35 ans, on ne parle que de ça dans les écoles d'art, et on ne parle que de ça dans des recherches qui se font... à l'université, donc, et il y a une publication sur les sorcières, justement pour réintégrer une figure qui a été rejetée par le patriarcat, par le pouvoir masculin. Donc, je vous ai peut-être pas bien compris.
Non, mais je pose aucun regard. La question du féminisme, à mon avis,
vous avez raison.
Non, mais parce que la question de la psychologie ne se pose pas. Ce sont des types. En fait, la question de la femme, malgré le titre, je la vois pas vraiment. Pour moi, ce sont pas des personnages féminins. Ils incarnent absolument rien du féminin. Sinon, des types.
Regardez-moi.
Maria Jodé.
Moi, je trouve ça assez terrible qu'à chaque fois qu'il y a un film féminin, on le trouve féministe. Parce que pour moi, le film n'a absolument rien de féministe. Altman est plutôt un cinéaste pas très humaniste, plutôt misanthrope. Et là, ça se sent aussi. Pour moi, c'est un film extrêmement féminin et pas du tout féministe. Et je pense que la bizarrerie, là où ça devient intéressant d'un point de vue presque féministe, c'est que la bizarrerie du film vient, je pense, de deux visages, celui de Sissy Spacek et Shelley Duvall, qui sont peut-être les deux visages d'actrices les plus étranges qu'on ait vus depuis des décennies. Hein, c'est vraiment les corps d'actrices les plus monstrueux. Elles ont quelque chose qui, à un moment, débarque dans les années 70 et qui met fin à une sorte de joliesse comme ça. Elles ont quelque chose de très agressif. Et le personnage de Shelley Duvall, pour moi, a quelque chose de totalement monstrueux. C'est pour ça qu'on lui répond pas. C'est presque une poupée. On parlera de Toy Story tout à l'heure, mais il y a un côté comme ça, poupée qui crache des phrases que personne n'entend. On appuie sur un bouton, elle va dire ah là là, je vais voir un garçon, ah là là, je fais de la cuisine, ah là là, je fais mon lit. Enfin, il y a vraiment un truc de presque d'automate qui est très beau dans ce film, et peut-être même qui pourrait presque être vu comme quelque chose de misogyne, peut-être.
De votre côté, Agnès Varda, ma chère Muriel.
Exactement.
J'ai la même coiffure. Parce qu'elle est très très drôle. Moi, j'ai beaucoup ri.
Non, elle est flippante surtout.
Bah, moi, ça m'a pas fait flipper.
Elle est effrayante.
Non, vraiment, à zéro.
On est d'accord,
Corinne. Extrêmement drôle. Les moments où elle fait la cuisine.
C'est formidable parce que vous voyez la richesse de ce film. On n'a pas du tout vu le même. Et c'est pour ça que sans doute que c'est un grand film, ce Trois femmes de Robert Altman, qui est donc sorti en DVD et Blu-ray chez Wildside. À suivre dans cette émission, nous allons parler de Rojo de Benjamin Neustadt, de Yves de Benoît Forjat et de Toy Story 4 de
Pixar, non, de Josh Cooley.
J'étais plus sûr du réalisateur.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute cinéma ce soir au Bel Air, à la barre de la maison de la radio, avec Rojo de Benjamin Neustadt, un film qui sort lui mercredi prochain sur les écrans. Le jeune cinéaste argentin poursuit son exploration des racines du mal. Il ancre son nouveau film dans l'Argentine des années 70, mi-temps des années 70, pour sans doute mieux montrer comment le pays va sombrer dans la dictature militaire. Ça débute par une scène apparemment banal, une scène dans un restaurant, une engueulade. Et Neustadt va dérouler le fil de son scénario et l'air va devenir assez irrespirable. Bon, ça c'est presque un sentiment que je donne ici, mais j'attends d'abord le vôtre, ici résumé. Muriel Joudet sur Rojo.
Pour moi, c'est juste un film de décorateur.
Lucille Como.
Je vois ce que veut dire Muriel. Pour moi, c'est un film assez instable, à la fois pour le meilleur et pour le pire.
Corinne Rondeau.
Un film sur la dictature sans la dictature.
Este es un lugar de gente que quiere trabajar y vivir en paz.
Pedrito, todo lo que está pasando en estos momentos.
¿Quién es?
¡Hijo de puta!
Thank you.
iniciales.
Gracias, doctor.
¿Algo extraño para señalar en la ruta, abogado?
Nada, gente, nada.
Dice que aparece gente en el desierto.
Te quiero hacer una pregunta personal. Nadie lo vio. Nada. Detective Sinclair ya está trabajando en el caso.
¿Es el de la televisión?
Sí.
Está acá.
Voy a necesitar de su ayuda, doctor.
Parece que se viene el golpe, che.
Papá, despertate. Hay un hombre abajo.
Me va a decir mirándome a la cara que no sabe qué fue lo que pasó. Por gente como usted, este país está convertido en una mierda. Usted no sabe cómo fue. Cuidado, abogado. No se pase.
Évidemment, après ce premier tour d'impression sur Rojo de Benjamin Neustadt, par qui commencer ? Eh bien, par Muriel Joudet, qui va nous expliquer en quoi elle trouve que ce film est un film de décorateur. Je reprends ce mot.
Et d'ailleurs, c'est un très bel enchaînement avec Trois Femmes. Je vous félicite, Arnaud, parce que là, on est passé des années
70. Le travail d'une équipe, vous savez.
À l'idée des années 70. Moi, pendant tout le film, j'ai eu l'impression d'être au présent, en 2018 ou 2017, dans des décors qui font années 70. Et le film pousse ça jusqu'à un degré de fétichisme qui devient vraiment asphyxiant. Alors, c'est autant une question de décor et de costume, c'est plutôt bien fait, mais aussi de mise en scène. Hein. On a des ralentis, le dernier plan du film se gèle exactement comme dans les années 70. On faisait beaucoup ça dans les films. La musique, enfin, tout fait sens. Enfin, tout va vers une sorte de fétichisation de cette décennie-là, version américaine, bien sûr. En dehors de ça, alors je pense...
Non, pas sûr du tout, mais bon.
Bah, disons que les arrêts sur image, c'est très nouvel Hollywood, quoi, mais bon.
Il y avait d'autres films dans d'autres pays à cette époque-là.
Mais non, je ne vous crois pas, Arnaud Laporte.
Je vous en donnerai quelques-uns.
Et alors, sur le scénario, moi, je pense que c'est la première fois depuis très longtemps que je me demande, est-ce que je comprends un film ? Est-ce que je ne suis pas bête ? Alors, ou je n'ai pas compris, ou vraiment, je n'ai pas réussi à m'intéresser à ce scénario complètement décousu, qui est une sorte de bout à bout de scènes qui suivent différents personnages, et qui finalement, on a l'impression que le cinéaste veut faire une sorte de métonymie de la situation politique en Argentine sans jamais y parvenir. C'est-à-dire que le film n'arrive jamais à prendre du relief, à prendre du surplomb sur ce qu'il filme. Et j'ai eu le sentiment juste de voir un fait divers extrêmement maniéré. Hein. Le titre apparaît à la 25e minute du film. Ça, je trouve ça extrêmement prétentieux de la part du film, sachant que par ailleurs, d'un strict point de vue scénaristique, il n'y a absolument rien. Moi, je me suis vraiment demandé, mais où va ce film ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Qu'est-ce qu'il essaye de me raconter politiquement ? Et d'où cette impression de coquille vide totale où vraiment, comme dans beaucoup de films, le décorateur a pris le pas sur le travail du scénariste et du metteur en scène.
Oh, j'ai du mal à croire à ce que vous dites, en fait. J'ai l'impression que c'est pas possible que vous puissiez penser des choses pareilles. Mais j'y reviendrai dans un instant. Lucille Comeau, qui avait l'air d'opiner pas mal à vos propos.
Oui, mais hein. je les pense aussi, mais différemment. Moi, j'avais été très impressionnée par son premier film à Benjamin Neustadt, qui était un peu un ovni, qui était en effet déjà un film de, bon, je vais pas dire décorateur, je vais dire plasticien, pour être un peu plus sympa que vous, Muriel, et qui s'essayait à une géographie de la peur qui fonctionnait aussi par scénettes. Donc ça donnait quelque chose de très étrange et d'assez décousu, avec un scénario qui était vraiment très lâche pour le coup, mais c'était très assumé. Là, en effet, on entre dans quelque chose d'a priori beaucoup plus classique, qui emprunte à la fois au film historique, puisque de fait, la référence, elle est évidente dans les costumes, dans la manière de filmer et dans les décors, et au film noir, c'est-à-dire que la première scène intense, qui est une scène entre deux personnages dans un restaurant, elle monte vraiment, elle est construite exactement comme une scène de film noir ou même une scène de film de mafia où on sent que ça va exploser et ça prend du temps, les jeux de regard se mettent en place, il y a un effet de champ contre champ qui est extrêmement travaillé, assez artificiel. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est saisi de ces deux formes-là qui sont extrêmement codées et qui, avec des milliards de références dans la tête, bon, pour le coup, désolé Arnaud, mais j'ai aussi pensé au cinéma américain des années 70. La musique aussi, vous l'avez pas cité Muriel, mais ça c'est une sorte de jazz un peu avec du saxophone. Ça fait penser à Chinatown, à d'autres films de ce genre-là. Mais il a voulu, en effet, en faire quelque chose en même temps d'assez étrange. Et du coup, je crois que l'articulation entre l'étrangeté voulue et ce qui n'est pas du, ce qui est du domaine du matériel et pas du, de ce qui est disons dissible, ça se dit pas ça.
Mais si.
Ne fonctionne pas tellement. Son rapport au genre, je ne le comprends pas. Cette manière d'amener le titre seulement à la 25e minute en feuilletonnant le générique exactement comme on pouvait le faire dans les années 70 avec des effets de ralenti et des effets de carton au milieu du film, au début je me suis dit c'est une parodie, j'ai pensé à un effet d'humour sur la forme, en l'occurrence je pense que ce n'est pas ça, mais du coup je ne comprends pas tous les clichés qu'il y a derrière. Il y a par exemple un détective privé qui entre en jeu, qui est un détective privé un peu mystique, qui se retrouve à un moment donné dans une église. Alors encore une fois, on a une scène extrêmement topique de ce type de film noir, où un personnage qui est censé rationaliser absolument tout, parce que c'est son rôle de détective privé, est une sorte d'annonciateur, enfin de cavalier de l'apocalypse. C'est un cliché du film noir, c'est un cliché du film de mafia, c'est un cliché de ce type de film-là, et je ne comprends pas le rapport du film avec tous ces codes, avec cette histoire cinématographique-là. Ce qui donne un ensemble de scénettes qui, en elles-mêmes, fonctionnent, c'est-à-dire qu'elles sont belles. Enfin, moi, je trouve, pour le coup, la cinématographie très belle, je trouve la photo très belle, je trouve que la musique fonctionne, les acteurs sont formidables. Mais sur l'ensemble, j'ai du mal à comprendre la cohérence. Après, on pourra reparler du contexte et de ce qui fait de l'Argentine de cette époque-là, mais j'ai du mal à comprendre la cohérence du film.
Corinne Rondeau.
Oui, bah, écoutez, je... J'ai vu autre chose, voilà. Quand j'ai dit, puisque Aissatou Ndoye n'a pas compris ma phrase, c'est un film sur la dictature sans la dictature, c'est que justement l'intérêt de ce film qui prend tous les codes des années 70 et du cinéma, avec tous les défauts que vous lui trouvez, est une manière, non pas de reconstituer l'époque de la dictature argentine, mais au contraire, de la faire cinématographiquement. Donc... Mais le plus intéressant pour moi à l'intérieur de ce qui vous paraît n'être qu'un bout à bout de scénettes et du décor plutôt qu'un scénario, c'est un film qui a de l'humour à l'intérieur des scènes effrayantes dont vous parlez, mais en plus c'est vraiment un film de 2017, 18 ou 19, à savoir comment quelqu'un qui est jeune et qui est issu de la pré-dictature est capable de faire un film sur ce qu'est la dictature en soi, à savoir, si tu es complice du silence, alors tu es complice de la dictature. Car tout le film repose simplement, et c'est la première scène, où des gens rentrent à tour de rôle, dans un silence absolu, dans une maison où tout le monde sort avec quelque chose à soi. Donc en fait, on comprend très rapidement, sans rien, et c'est là qu'on retrouve du Altman, c'est vrai, cette suspension, où il n'y a pas d'explication, mais en fait les gestes suffisent à donner le sens que cette maison, quelqu'un a disparu, et qu'on est en train de la piller, et que les gens se taisent parce qu'ils ont un profit. Et tout le film relève de cette confrontation entre des gestes et le silence qui va avec. Et le personnage principal, l'avocat, Claudio, qui est joué par Dario Grandinetti, a, je dirais, toute la temporalité du film avec presque rien pour passer de « je suis intègre » à « je suis complice de tout ». Et je trouve que ce film, avec rien, avec parfois de l'humour grinçant et parfois en usant justement de toutes les caractéristiques du cinéma américain, vous avez parlé des ralentis, d'une espèce de flou dans le champ de profondeur, eh bien c'est un film qui n'arrête pas de nous dire aujourd'hui, se taire, c'est le début de la tyrannie. Et je trouve qu'avec rien, avec de l'inquiétude, avec le grotesque de la vie, dans un geste qui devient en fait un combat de coq, parce qu'en fait le film commence par... vous l'avez dit, une engueulade,
une altercation.
Une altercation qui va finir très très mal. Et ce détective qui surgit, que vous trouvez peut-être grotesque, il a le grotesque des illuminés de la dictature argentine, dont les types disaient, finalement, si vous n'êtes pas communiste et catholique, tout va bien. Autrement dit, vous pouvez tuer qui vous voulez, du moment que vous restez communiste
catholique.
Et catholique, anticommuniste et catholique. Autrement dit, le film, et dans cette scène de désert, c'est ça qui se joue. C'est-à-dire qu'il y a une chose impensable qui peut être dans un déséquilibre pour un spectateur, mais qui, pour le coup, moi, m'a paru la chose la plus monstrueuse qu'il soit. C'est-à-dire, ok, tu peux être malheureux, mais finalement, tu peux tuer le monde que tu veux, tant que, comment ça s'appelait, pendant le processus de réorganisation nationale, la dictature argentine. Donc, c'est tant ça. Que tu es dans le bon sens, après tout, vas-y, banco.
Bon, je ne peux que plus soyez, parce que tout ce que vient de dire Corinne Rondeau, c'est pour ça que je n'arrive pas à croire que vous ne voyez pas de scénario, que vous ne voyez pas ce que le film raconte, Pauline Jodet, tant c'est, à mon avis, d'une limpidité totale et terrifiante, parce que c'est une histoire simple. Quel rapport, disiez-vous, le film a ses références, à ses clichés? Le rapport que ces années-là ont produit ce cinéma-là et qui s'inscrit dans ce cinéma-là, parce que c'est aussi un produit de cette époque-là. Et je reviens vers mon Chabrol, parce qu'il n'y a pas que le cinéma américain dans la vie. Il y a aussi Claude Chabrol qui a fait des films extraordinaires dans ces mêmes années, du début des années 70, fin des années 60, avec cette inquiétude. C'est quand même un de ceux qui ont réussi à montrer la France et la société française dans toute sa maladie. À l'époque, on était dans les 30 glorieuses, je le rappelle. Lui, il voyait absolument la noirceur de cette société. On voit où on en est aujourd'hui. Chacun en pense ce qu'il veut, mais enfin, on peut pas dire que ça va extrêmement bien dans nos vies, dans nos sociétés. Claude Chabrol, même s'il est nourri par le cinéma américain, moi, j'ai lu en effet que Benjamin Neustadt se référait à Sam Peckinpah, à Francis Ford Coppola et quelques autres. Mais je pense qu'il est tout autant nourri par d'autres cinématographies. Mais comme Lucille Gaumont n'arrête pas de me faire signe pour prendre la parole, je la lui donne.
Non mais je vois ce que vous voulez dire, c'est l'espèce de revers positif de ce que je pense du film. Moi, c'est juste que son côté troué et son côté je montre le silence, justement ce que vous décriviez Corinne, me paraît extrêmement artificiel, et artificiel à l'image et artificiel dans la construction, et bloque énormément les effets de tension. Vous parlez de tension, vous parlez d'inquiétude.
Ah oui.
Pour moi, l'inquiétude, elle fonctionne à l'échelle d'une scène, vraiment de 5 minutes ou de 10 minutes, mais elle se reconfigure à chaque passage, je sais pas comment dire, et du coup ça bloque un sens global qui n'arrive jamais. Vous parliez, Muriel, de métonymie, j'avais vraiment noté ce mot, c'est exactement ça, le fonctionnement historique, la manière, le rapport à l'histoire argentine dans ce film. Je connais pas bien l'histoire de l'Argentine des années 70, il est métonymique. Il y a un passage où tout se joue dans un cabinet de préfet de province, puisque tout se passe en province et non pas à Buenos Aires. Et le préfet reçoit des cow-boys. Il y a référence plusieurs fois faite à ces cow-boys américains avec qui il y a eu conflit. Donc il s'agit de réparer quelque chose. On sent que ça, c'est très important pour l'avenir du pays et que ça va déterminer l'avenir du pays à venir. Cette manière extrêmement artificielle de pointer la petite chose par le tout petit bout de la lorgnette pour essayer de nous faire comprendre une tension plus globale, je la vois de manière très artificielle, très construite, et donc du coup je n'arrive pas à être tendue. Je ne sens pas vraiment l'inquiétude et je ne sens pas la catastrophe possible, ce dont vous parliez, les racines du mal. Pour moi c'est très artificiel, cette espèce de mysticisme qui est à l'œuvre, notamment dans la bouche du détective privé. Pour moi, c'est du pur cinéma, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est de la pure plastique, c'est de la pure matérialité, et du coup, je ne crois absolument à rien de ce que je vois.
Oui, Jodet.
Oui, je rejoins Lucille, c'est que tout arrive, comme disait, je crois, Danet, tout arrive aux images. On a l'impression que c'est juste des images, et moi, je ne vois pas la fiction qui monte, je vois que des acteurs déguisés, et c'est un problème que je rencontre souvent avec beaucoup de films très bien faits, où on se rend compte que tout le monde fait bien son travail, mais qui manque... Il manque juste le cinéma, non, mais... quelque part. Et contrairement à
Chabrol... Il y en a à chaque seconde dans ce film, Marielle, du cinéma. Ouais, mais comme Shelley Duvall nous fait rire et nous terrifier avec Corinne Rondeau, on n'a pas le même sens, le même rapport à la terreur. Du coup,
mais je trouve que, par exemple, si on compare à Chabrol, pour moi, ça manque clairement de pourriture. Chabrol, il y a plein de pourriture. Il y a un truc crade chez Chabrol, chez Peckinpah aussi.
C'est
vraiment que ça. Il y a un truc de poisseux qui n'est pas du tout dans le film, qui est propre, lisse. Voilà, à la 2019, quoi. Tout est propre.
Ah oui. On a pas
tout est parfait,
film.
L'image est parfaite.
Est-ce que c'est le même film vraiment dont on parle?
Je sais pas. Alors, je vais m'envoyer un lien.
Benjamin Neustadt, Corinne Rondeau, un dernier mot sur ce film.
Je ne savais plus. J'avais une idée, mais je l'ai oubliée parce que je ne note rien. Mais. Je remercie le réalisateur pour une chose. C'est-à-dire, au lieu de faire un film où il y aurait des jugements moraux sur la dictature, il montre simplement une sorte de ligne continue. Alors, j'entends ce que vous dites, Lucille, ce côté un peu plat, et ça ne monte pas le scénario. Mais je veux dire, là où ça s'insinue, ça ne monte pas. Il n'y a que dans l'action et l'artifice du montage dans un film d'action ou dans un film moral qui veut pointer là où se passe le mal par rapport ou à ce qui ne le serait pas. Et donc, ce film montre, sans rien créer de relief, là où ça passe.
Ouais, les conditions.
C'est ça qui m'intéresse, moi, dans ce film.
De la dictature, l'avènement de la dictature.
Oui, mais je trouve qu'il le fait de manière désertique. Et c'est ça qui est beau. Et quand il met de l'artifice, parce que moi, je ne parlerai pas de décor, je parlerai d'artifice. Il y a des scènes où on voit qu'il a planté un décor, mais qui fait je suis dans une fiction, et cette fiction, elle passe par une reconstruction. Et ce type, il a au moins l'honnêteté de dire « j'ai pas vécu ces années-là et je reconstruis parce que je vis quand même dans une époque où les dictatures sont partout. Donc comment parler de la dictature dont le pays est originaire, dont je suis originaire, pour en faire autre chose ? C'est tout, pour moi. »
C'est tout pour ce soir. Concernant Rojo de Benjamin Neustadt qui sort dans les salles françaises mercredi prochain.
Les gars, on part tous en voyage.
En voyage, mais...
Des vacances !
Liberté !
Pourquoi je dois être un jouet ?
Il faut que tu sois conscient de la chance que tu as d'appartenir à un enfant.
Hein ?
Et maintenant, on va vers l'infini et au-delà, grâce à Muriel Jodet et à Toy Story 4.
Et oui, bah alors j'ignore si autour de la table il y a des fans inconditionnels de Pixar et de Toy Story, mais pour
présent.
Parfait. Alors pour résumer un peu la chose, hein, depuis que Pixar a fait l'annonce de Toy Story 4, il y a maintenant quelques années, moi et mes amis de moins de 12 ans attendions avec impatience ce Toy Story 4. Alors pourquoi cette impatience ? Je résume un peu la situation. Tout d'abord parce que Pixar est le studio d'animation américain qui a tissé le rapport le plus émotionnel avec son public, contrairement à DreamWorks, Shrek ou Blue Sky Studio, qui a fait L'Âge de Glace. Tout commence en 1995 avec Toy Story 1, le premier volet de la série, qui est aussi le tout premier film Pixar, hein, où on suit les aventures d'une bande de jouets qui prennent vie, qui se dotent d'émotions et qui, comme nous, vivent des crises, des ruptures et même des dépressions, puisqu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus d'eux. Hein, comme vous le savez, il y a toujours un moment où les enfants se débarrassent de leurs jouets, enfin je crois. Et à travers cette histoire des jouets, en animant l'inanimé, Pixar a vraiment réussi à raconter l'histoire des émotions humaines. Alors ici, je ne vais pas tout raconter, mais je vous renvoie au livre absolument magnifique et définitif d'Hervé Aubron, Génie de Pixar, aux éditions Capricci.
Définitif, n'exagérons rien.
Ah,
rien
moi, de je ne sais pas ce qu'on peut écrire.
On en parlera au Toy Story 20.
Je ne sais pas ce qu'on peut écrire après ça.
C'est très très bien.
C'est très très bien. Mais je suis sûre qu'on peut faire mieux. Mais je trouve ça quand même définitif.
Tu peux écrire après Cervantes, quoi.
En tout cas, le livre démontre bien à quel point le studio est à la fois une bombe émotionnelle, mais surtout théorique, hein, qui ravage autant les enfants que les adultes. Alors, je reviens à ma première question. Pourquoi autant d'impatience autour de Toy Story 4 ? Alors, le Toy Story 3, réalisé par Lee Unkrich et sorti en 2010, donnait l'impression que on ne pouvait rien faire après. Hein. C'est une sorte de clôture définitive hantée par la mort. Et que c'était vraiment le volet le plus déchirant des trois, d'où la grande attente autour de Toy Story 4 qui apparaissait comme l'épisode de trop, et on sent que l'équipe Pixar s'en est rendu compte. Alors, trois raisons pour aller voir ce Toy Story 4. Un, tout simplement parce qu'on peut s'amuser à comparer les progrès en termes de photoréalisme entre le premier Toy Story, 95, et celui d'aujourd'hui. Alors, c'est vraiment absolument sidérant, hein. C'est un bonheur de voir la manière dont le studio prend un plaisir fou à reconstituer la texture d'une peluche, la brillance d'une porcelaine, ou encore, et c'est vraiment le clou du spectacle, la poussière qui s'accumule autour des prises électriques. Alors, juste en termes visuels, c'est un pur joyau. Le deuxième point, c'est tout simplement Fourchette, qui est le personnage qui apparaît. Alors, qui est Fourchette, Arnaud Laporte ? Tout simplement...
Un nouveau personnage dans Toy Story.
Je m'en vais, puis...
Bon, on va y aller, hein. On vous laisse, Muriel.
Oui,
en fourchette. Il y a un nouveau personnage, fourchette.
Alors,
3.
C'est une fourchette en plastique, un déchet transformé en jouet par la créativité d'une petite fille. Mais fourchette refuse tout simplement d'être un jouet. Et ce... Mais arrêtez, c'est sérieux. Et ce qu'il y a de très beau, c'est que fourchette passe son temps à se jeter dans une poubelle. Alors, ça fait rire les enfants, mais les adultes y verront forcément un comportement suicidaire. Alors, moi, je trouve ça complètement glaçant. Heureusement, et c'est mon troisième point, Woody est là, Woody le cowboy, et qui est aussi le protagoniste de la série. Il est là pour sauver Fourchette et lui faire accepter sa nouvelle identité de jouet. C'est aussi le vrai personnage.
Un personnage transgenre, hein, Fourchette.
On oui, parce noté. Que c'est une cuillère fourchette qu'on avait déjà vu dans Wall-E, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, Woody devient finalement un personnage névrosé, hanté par la perte, hanté par l'idée d'abandonner un jouet derrière lui. Personnellement, alors, j'ai pensé à John Wayne dans La Prisonnière du désert, mais tout le monde se moque de moi quand je dis ça. En tout cas,
ça se tient.
Oui, non, mais vraiment, ça se tient totalement. Ouais, même à Vertigo, mais bon, je m'arrête là. Et en tout cas, pour terminer...
Tous les films font penser à Vertigo. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est une
à
autre
part
question.
Rojo. Et pour finir, la grande intelligence...
Bon, je vous interromps, alors.
Des studios et des scénaristes, c'est d'avoir su trouver ce qui, dans Toy Story 3, pouvait être dépassé et critiqué. Toy Story 4 est finalement le volet d'une crise d'identité généralisée au sein de la communauté des jouets. C'est un film qui réussit, comme tous les grands Pixar, à être un immense divertissement extrêmement beau à regarder, mais derrière lequel se cache toujours, sans crier gare, un vertige philosophique et métaphysique qui concerne petits et grands. Alors, Pixar a annoncé qu'il ne ferait pas de suite au film déjà existant. Alors, j'avoue m'être vraiment totalement effondrée au dernier moment de Toy Story 4. C'est très dur pour moi de dire au revoir à Woody, Buzz, Monsieur Patate et la bergère, mes amis que je connais depuis 25 ans, tout simplement. Heureusement, les DVD existent et rien ne nous empêche de regarder notre enfance en boucle.
C'est bon, vous avez fini vos 17 minutes de coup de cœur, Muriel Jeunet, c'est absolument merveilleux. Mais il n'y a pas de piratage, mais moi je crois au 5, moi.
Non, on ne peut rien faire après le 4, vraiment.
Et on ne pouvait rien faire après le 3, regardez.
C'est vrai.
Il y a un 4. Bon, il y en a 1, 2, 3, 4 à voir, il y a un joli coffret DVD qui va arriver pour Noël, on sait quoi vous offrir.
Oui, j'ai déjà tout.
Non mais le beau coffret collecteur avec des petites figurines. Enfin.
Ah ça, ce serait pas.
Avec une cuichette, parce que ça s'appelle une cuichette.
C'est ça, voilà.
Bah oui, une fourchette cuillère, c'est une cuichette. Bon, c'était Toy Story 4, tel que vu par Muriel Jodet.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Moi, je vais pirater aussi pour inscrire un coup de cœur très, très furtif, extrêmement rapide, pour Beau Joueur, un documentaire de Delphine Glaise qui est sorti mercredi sur les écrans, qui va intéresser Corinne Rondeau puisqu'il s'agit de rugby. Il s'agit de suivre une saison de l'aviron bayonnais qui, cette saison-là, venait de rejoindre le top 14. C'est l'élite du rugby, comme vous le savez, Muriel Jodet. Et donc, suivre cette saison. On ne dira pas comment elle se terminera. Alors, j'ai lu qu'il y avait quelques critiques qui trouvaient ça répétitif, y compris au sein du bureau de la dispute. Mais ce qui est répétitif, oui, c'est la vie d'un joueur de haut niveau. Ce sont les entraînements, ce sont des matchs, et en plus, là, ce sont des tôles à chaque fois, quand même, parce qu'ils prennent assez cher à chaque fois, ou presque, l'aviron bayonnais. Et puis les séances vidéo, et puis les discours du coach, et ça revient en boucle, et ça revient en boucle, avec une idée formidable qui devrait inspirer toutes celles et ceux qui s'intéressent au sport, au cinéma, ne surtout jamais filmer une seconde d'un match. On ne voit pas une image d'un match, mais on voit les entraînements, on voit tout ce qu'il y a autour, on voit les regards de ceux qui sont sur le banc de touche regardant le match en cours, mais on ne verra jamais de rugby sur grand écran, parce qu'on sait très bien, et j'attends d'être contredit, que le sport au cinéma, ça ne marche pas. Sauf la boxe peut-être, mais bon, c'est un peu particulier. Ça, c'était mon coup de cœur pirate pour Beau Joueur de Delphine Glaise qui est sorti mercredi. Mais maintenant, le dernier film véritablement au sommet de cette émission, et voire même de cette saison de la dispute, c'est Yves de Benoît Forgeard, qui est sorti lui aussi mercredi dernier. Il avait réalisé précédemment Gaz de France, c'est son nouveau long métrage. On va découvrir Jérém, apprenti rappeur, qui va devenir testeur, mais surtout cobaye d'une entreprise qui souhaite commercialiser un frigo doté d'une intelligence artificielle. Premier sentiment sur ce film, Lucille Como ?
Ça m'a fait rire, c'est déjà pas mal.
C'est pas mal. Corinne Rondeau.
Bon, je le fais à la France Q, un film visionnaire sur l'intelligence artificielle et l'intersubjectivité.
Muriel Jodet.
Non, moi, ça m'a laissé, puisqu'il faut faire des métaphores sur le froid et tout ça, ça m'a laissé froide.
Oh. Ah bah,
je préfère Toy Story en matière d'objets animés.
On avait que comprendre.
Vous allez adorer Yves. Yves a a une hygiène de vie irréprochable. Yves est un artiste. Yves est drôle.
Pourquoi m'avoir dit que vous étiez policier au téléphone ?
Je suis musicien, je fais du rap.
Yves est un exemple pour les jeunes.
Parce que tous tes potes, là, sont en train d'exploser sauf toi. Tu comptes vivre de quoi exactement ?
Yves a toujours le bon mot.
Je t'aime.
Au bon moment.
Sécurité !
Yves fascine les filles.
C'est me glander, je vais arrêter la huit, je veux manger.
Yves a gagné l'Eurovision. Yves a triomphé à Cannes. Yves est l'homme de l'année. À ce détail près, Yves est un frigo.
Bonjour, je m'appelle Yves.
Intelligent.
C'est cool, hein ?
N'est-ce pas ? C'est trop stylé.
C'est trop stylé, Lucille Comeau.
Oui, alors je sais pas si c'est trop stylé, mais en tout cas, c'est vraiment pour moi un exemple assez réussi de la blague unique qui fonctionne assez bien sur la longueur.
Je suis entièrement d'accord avec vous.
Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à faire ça en France. J'ai pensé, bon, Alain Chabat y arrive parfois, Quentin Dupieux aussi y arrive, et on est un peu obligé de penser à Quentin Dupieux parce que son précédent film, dont on n'a pas pu parler ici pour cause de grève, est aussi une histoire d'objet qui prend le pouvoir. Là, c'est assez efficace, ne serait-ce que le début. Le frigo, donc ce fameux héros, puisque c'est le héros de l'histoire, arrive dès le début. Et l'absurdité totale de ce postulat de départ, qui est donc que ce frigo va prendre l'ascendant au fur et à mesure sur le héros, ne s'auto-justifie jamais. Il y a vraiment quelque chose qui me donne des sueurs froides dans le cinéma français, c'est la manière dont il se justifie en permanence de tout, y compris dans la comédie. Là, c'est totalement absurde et jamais on ne se pose la question de pourquoi ce frigo. Enfin, ça, on s'en fout complètement. Et ça, cette
Peut-être
espèce de confiance.
Se pose la question, non, mais vous pouvez compter sur elle.
Non, mais bon, alors moi, j'ai complètement adhéré, c'est-à-dire que je trouve que le film transmet une forme de confiance assez jouissive dans son sujet. Je pense. Parce que il y a une forme de simplicité réellement par rapport au sujet, ce qui n'est pas le cas toujours de Quentin Dupieux. Donc c'est donc une histoire assez primitive dans le fond, puisque c'est la machine qui l'emporte sur l'homme. Sauf que cette espèce de structure assez basique de la fiction, et y compris de la fiction cinématographique, se place dans une forme de comédie en reprenant des codes de toutes sortes de comédies, la comédie romantique, la comédie du loser un peu sublime, la comédie musicale aussi, puisqu'il est beaucoup question de musique, puisque c'est une sorte d'anti 8 Mile. Il y a d'ailleurs des références, à mon avis, assez directes, puisqu'il y a un battle à la fin, dans une sorte de cave, puisque le frigo va prendre l'ascendant, y compris artistique, sur la personne qu'il est censé servir. Moi, je me suis vraiment demandé à chaque minute comment ça allait tenir la minute suivante. C'était vraiment mon processus pendant tout le film. Et j'ai été assez surprise en permanence de constater que ça fonctionnait. Sans rajouter artificiellement d'autres intrigues ou d'autres possibilités comiques. C'est vraiment un comique très particulier qui fonctionne à la fois sur l'absurde et sur le loufoque et qui fonctionne bien sur la longueur.
Bon, je suis déjà complètement d'accord avec Lucille Comeau. Comme je vois que le temps file, peut-être que je pourrais juste dire que je suis d'accord avec Lucille Comeau. Muriel Jodet ?
Alors, moi,
comme vous n'aimez rien.
À part Toy Story.
À part Toy Story, que vous adulez.
Bien sûr. Non, Benoît Forger me fait beaucoup rire quand il écrit dans son film des synopsis. Il invente des synopsis, c'est très drôle. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, mais qui ne parvient pas à traduire sa drôlerie en termes cinématographiques. Et pour moi, le film n'est pas une comédie. C'est une blague étirée sur 1h40. Et ça m'a vraiment extrêmement agressée, parce que déjà, je déteste le loufoque et l'excentricité au cinéma. Et je déteste la figure du loser dans le cinéma. C'est deux trucs qui m'horripilent complètement. Et là, il y a vraiment les deux. Et d'ailleurs, le traitement médiatique de Forgeard, et je pense qu'il doit en avoir lui-même marre, c'est ce côté cinéaste excentrique. À chaque fois, chaque année, à chaque fois qu'il sort un film, on en parle comme d'un cinéaste excentrique. Et je trouve qu'il s'enferme un petit peu dans ce rôle. Et là où le film agresse, c'est qu'il se fait une très petite idée de ce que peut être le cinéma, d'une part, parce que je trouve le film assez laid, la lumière, la mise en scène, finalement assez... comment dire, vulgaire dans sa manière de traiter les personnages, qui pour moi n'arrivent jamais à entrer vraiment dans la fiction. Je trouve le traitement des personnages féminins très vulgaire, voire frôlant la misogynie. William Leguin
n'arrive pas... C'est votre côté Agnès Varda, ça, on le connaît maintenant.
Non, mais en plus... Non, mais une misogynie tranquille qui se rend même pas compte qu'elle est misogyne. Et William Lebgill est totalement antipathique dans le film. C'est-à-dire qu'il ne prend jamais
c'est
d'ampleur.
Le héros, hein, Jérém.
Et ce que je déteste, et qui pour moi, un peu à l'image du film, c'est la manière dont on traite Philippe Catherine au cinéma, qui est en fait le bouffon du cinéma français. Hein, vraiment, c'est ça. Je ne supporte pas qu'un génie de la chanson française soit traité comme ça au cinéma, que ce soit dans Le Grand Bain ou ici. Alors évidemment, je pense que Benoît Forgeard a beaucoup de respect pour Catherine, mais voir Catherine comme ça, comme une sorte de cartoon qui débarque dans les films pour faire trois blagues et faire le pitre, moi ça m'insupporte. Et tout le film
pour moi...
C'était
le héros de Gaz de France, le précédent film de
Benoît
Forgeard.
Oui, Gaz de France pour moi avait les mêmes défauts, c'est-à-dire un univers complètement clos sur lui-même, je pense que Forgeard s'épanouirait pleinement à la télévision, sous forme de sketch aussi, hein, réussir sa vie, et le film est le plus réussi selon moi, parce que le format sketch lui va bien mieux.
Les courts-métrages qui étaient réunis sous ce titre-là.
Voilà, c'était trois courts-métrages, et là, pour moi, l'ampleur d'un long-métrage n'est pas du tout habitée.
Corinne Rondeau.
Ouais, bah alors on peut dire que ce film est radical parce que je pense qu'ou on le déteste ou on l'aime. Voilà. Parce que la position intermédiaire m'apparaît impossible.
Oui, c'est compliqué, oui.
Donc voilà. Alors je dirais pas que c'est burlesque ou je ne sais quoi,
excentrique.
Je pense que c'est lourd. C'est extrêmement lourd. Donc ou on est dans la crétinerie, la lourdeur, ou elle passe pas, il y a la graisse, ou elle passe et. On en rit à gorge déployée. Bon, moi, je l'ai vu dans une salle où personne n'a ri. Bon, il y a peut-être d'autres salles où les gens rient.
Non.
Non, mais peut-être.
Dans la mienne, il y avait moi qui riais.
Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Donc, je dirais que moi, j'ai plutôt subi le film qu'il ne m'a fait penser. Oui. J'ai repensé à la Cité de la Peur sur la dimension du sketch, on va dire, et de ces côtés qu'on peut avoir comme ça qui dérapent sur un scénario. Non, mais pour essayer de retrouver quelque chose que j'ai pu aimer, pourquoi finalement il y avait des choses que je n'aimais pas dans ce film. Je pense que pour parler de cinéma, c'est un film qui ne tient pas son rythme du tout. Et donc il échappe continuellement parce que j'ai l'impression qu'il met la caméra sous un entonnoir. Donc tout y passe. Ça passe sous des formes de critiques de la société ou de rapports, que ce soit l'adoption par exemple à la fin cette scène où ils ont adopté tous les appareils électroménagers qui ne fonctionnent pas, ou la critique de l'intelligence artificielle, quel effet ça va avoir. Alors dès qu'on se met à penser sur ces circonstances contemporaines, je trouve le film creux.
Plus faible.
Par contre, évidemment, si c'est une mise en pointe de sa chanson, carrément rien à branler, je pense que le film...
C'est le titre, hein, je précise pour les auditeurs.
C'est le titre de la chanson, pardon.
Crabe, on dit crabe. Crabe, aussi.
Pardon. Ouais, oui, mais si les gens savent...
Carrément rien à branler.
Moi, je ne savais pas, alors... Bon. Ce qui fait qu'en fait, le film se retourne aussi contre lui-même, du point de vue du spectateur. C'est-à-dire, le spectateur peut lui dire « crabe ».
Moi, j'ai l'avis de Lucille Comeau, comme j'ai dit tout à l'heure, donc je n'ajouterai pas grand-chose, si ce n'est que la scène du concours de l'Eurovision m'a fait pleurer de rire, mais pas Muriel Joudé.
Mais l'aspirateur pour représenter le Portugal, enfin, désolé.
Ben c'est drôle, là. Mais évidemment.
Non, après, j'aime une idée.
Les machines à laver pour l'Allemagne.
Ah, j'aime une idée, mais voilà, vous trouverez
laquelle. Allez, dites-le.
C'est la vaisselle, en fait, l'idée qu'en fait, on est entouré par la domotique, par les objets intelligents, et que d'un seul coup, le fait de faire la vaisselle redevient érotique, c'est la seule belle idée du film pour moi.
Ben ça en fait déjà une. Mais ce qui est très drôle par ailleurs, c'est que Benoît Forgeard, comme Benjamin Neustadt, tous deux ont suivi le cursus du Frénois, Studio National des Arts Contemporains, qui est censé être l'école. Ah oui, quel point commun entre les deux? Et là, vous m'en parlez après l'émission parce qu'il est trop tard.
Il n'y a pas de très Frénois dans certains films.
Mais vous
français.
Rigolez.
Mais je vais m'arrêter
mais
là.
Mais vous rigolez entre Yves et Rojo, essayez de me trouver des points communs.
Moi, je rigole. La mauvaise juste foi. Pour...
Ouais. Allez, retournez voir Toy Story, ça vous mettra de bonne humeur. Rien de jeudi. Yves! De Benoît Forgeard est sorti en salle mercredi dernier. Et avant de conclure cette émission et cette saison, c'est le jeu de la dispute. Et Joséphine Dumoulin, pour une dernière fois chez nous,
la dernière,
va nous donner, nous rappeler d'abord la question du jeudi soir et sa réponse.
Alors la question était, quels artistes ont inspiré au commissaire de Princesse des Villes le titre de l'exposition du Palais de Tokyo? Et la réponse était Michel Berger et le groupe de rap 113.
Bon, c'est une bonne réponse. Hein. On fait ce soir des invitations pour l'exposition Distance Intime, chef-d'œuvre de la collection Ishikawa. C'est à l'hôtel des collections, le Moco, à Montpellier, qui va ouvrir demain et qui sera visible jusqu'au 29 septembre. Et ce qui est bien, c'est que pour avoir la réponse à la question... On va revenir plus tard. La question, c'est Joséphine Dumoulin.
Quel paysagiste a repensé aux côtés du plasticien Bertrand Lavier le jardin de l'hôtel des collections du Moco?
La réponse, si vous l'avez, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Joséphine Dumoulin, et puis Adèle Dimskoy qui était avec nous cette semaine, élève de seconde. Évidemment, le moment d'adresser un salut particulier, j'espère bien, on espère tous qu'elle pleure depuis tout à l'heure, mais un salut spécial, nos remerciements à Joséphine Dumoulin. Elle ne pleure pas du tout, on est d'accord. Hein. Son stage prend fin aujourd'hui dans notre émission. Et je voulais remercier, c'est écrit, hein, Sarah Dion, mais elle est venue ce soir, donc ça tombe bien, elle est là. Parce qu'elle a été elle aussi notre stagiaire dans la première partie de cette saison à la dispute. On espère bien revoir l'une et l'autre dans les couloirs de cette maison, dans les bureaux de France Culture. En tout cas, Joséphine Dumoulin a très envie de travailler, donc des remerciements qui valent lettre de recommandation. À bon entendeur, salut. À la prise de son ce soir, une super production, c'est Guillaume Ledu, Stéphane Desmonts, Philippe Thibault, Tahar Bouklifa et Romain Lenoir. Réalisation Alexandre Fougeron. Bien sûr, les informations sur l'émission sur le site franceculture.fr à la page de la dispute. Alors, on m'a demandé plusieurs fois si on allait retrouver la dispute en septembre. Eh bien, non. Là, je laisse un silence.
Moi, je viens.
La dispute sera de retour le 26 août. Donc, ce ne sera même pas septembre, c'est dès le 26 août. D'ici là, vous avez aussi l'occasion de retrouver certaines voix de cette émission dans les masterclass. La saison 3, ça commence lundi 1er juillet, des masterclass du lundi au vendredi pendant 8 semaines de 11h à midi et rediffusées le soir de 20h à 21h. Passez un bel été. On va encore dire quelques mots dans cette émission, mais merci d'être toujours plus nombreuses et nombreux à nous écouter.